Bonjour. Comme tous les grands faits divers, l'affaire Fillon a le mérite de nous révéler tout un monde. D'abord, le petit monde des grands élus de la République, avec leurs avantages et l'opacité qui, souvent, les entoure. Mais aussi, plus largement, en élargissant le champ, leur rapport avec le monde de la finance et aussi, bien entendu, le monde des médias. Alors, pour explorer ce dévoilement d'un pan entier de la société, Anne-Sophie, qui était plus indiquée qu'une sociologue ?
Eh bien, personne d'autre que Monique Passon-Charlot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS, tout comme votre mari Michel. Et tous les deux, vous êtes les héros d'un film qui a été diffusé en 2008 et qui s'appelle « Voyage dans les ghettos du Gotha », également objet d'un de vos ouvrages. Et dans ce film, on aperçoit très brièvement Pénélope Fillon, qui va nous intéresser grandement aujourd'hui. À vos côtés, Nicolas Thibault, bonjour. Vous êtes président de l'Association française des collaborateurs parlementaires et vous êtes vous-même collaborateur parlementaire auprès de deux députés Les Républicains, qui sont Véronique Louwagie, députée de l'Orne, et Marianne Dubois, qui est députée du Loiret.
Voilà. Et peut-être pour commencer, à l'intention de ceux de nos abonnés qui auraient passé les 8 derniers jours sur la planète Mars, un résumé de l'affaire.
Oui, qui a au moins un mérite, c'est justement de mettre en lumière le métier d'attaché parlementaire, un poste occupé par Pénélope Fillon, si on en croit les révélations du Canard enchaîné. C'était le 25 janvier, et révélations qui signent le début des tourments du candidat Les Républicains à la présidentielle et de son épouse. Alors, selon les premières révélations du Canard enchaîné, Pénélope Fillon a été la collaboratrice parlementaire de son mari pendant 9 ans, puis celle de son suppléant, le député Marc Joulot, pendant 6 mois, et au total, elle aurait touché près de 400 000 euros pour un travail dont on ne trouve pour l'instant aucune trace ou très peu de traces, d'autant que Mme Fillon s'est toujours présentée comme étant très en retrait de la vie politique de son mari. Mais les révélations du Canard ne s'arrêtent pas là. Pénélope Fillon aurait également empoché 100 000 euros en tant que conseillère de lecture pour la revue des Deux Mondes, une revue qui est la propriété de Marc Ladré de La Charrière, très grande fortune et très grand ami de François Fillon. Et là encore, le travail effectué paraît bien maigre, puisque Pénélope Fillon est l'auteur de 2 notes seulement, 2 notes qui ont été publiées par Marianne la semaine dernière. Donc à partir de là, les médias défouraillent et ne lâchent plus Fillon. Mediapart et Le Monde se sont intéressés aux affaires de l'ancien Premier ministre et ont enquêté sur sa société 2F Conseil, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que parmi les clients se trouve la société de René Ricol, l'homme qui fut chargé du temps de Sarkozy de distribuer l'argent du grand emprunt. Là-dessus, le Canard sort sa 2e cartouche, c'était mercredi 1er février, en révélant cette fois-ci que Pénélope Fillon a été attachée parlementaire de son époux bien plus tôt que ce que l'on imaginait, et que leurs enfants, Charles et Marie, ont eux aussi bénéficié d'un poste d'attaché parlementaire auprès de leur père lorsqu'il était sénateur, c'était entre 2005 et 2007, et qu'à eux deux, ils ont engrangé 84 000 euros, soit au total, comme le conclut le Canard enchaîné, quasiment 1 million pour la famille Fillon. Alors, dernier clou dans le cercueil Fillon enfoncé hier avec la diffusion dans Envoyé spécial sur France 2 d'une vidéo de Pénélope Fillon accordée en 2007 au quotidien britannique The Telegraph et où elle se confie sur sa vie.
Je me suis inscrite à l'université.
Ah oui, dans quelle matière ?
Anglais. Ah bon, littérature anglaise ou ?
Oui.
Et vous en êtes où ?
Oh, je viens tout juste de démarrer. Donc.
Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça ?
Eh bien, je me suis soudain rendu compte que tout ça, vous savez, le tourbillon avec les enfants. Si je n'avais pas eu le dernier, je serais sans doute allée chercher un travail. Mais. Je me suis tout à coup rendu compte que les enfants ne me voient que comme leur mère. Alors je leur explique, vous savez, j'ai un diplôme de français, j'ai fait du droit, j'ai eu le concours d'avocat, je ne suis pas si stupide. Je me suis dit que ça me remettrait au travail, que ça me stimulerait. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication.
2007,
oui. Voilà. Que dire de plus sur cette affaire ?
Alors, cet extrait-là est le dernier d'une série de grands moments télévisés de cette affaire, dont les différentes prestations de François Fillon, dans lesquelles la presse a relevé un certain nombre de mensonges. Donc on les a listés.
Oui, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'était sur le plateau du JT de TF1, et c'était le jeudi 26 janvier. On regarde.
En réalité, ma femme travaille pour moi depuis toujours, depuis 1981, depuis ma première élection. Elle l'a fait bénévolement pendant des années. En 1997, j'ai un collaborateur parlementaire qui est parti, je l'ai remplacé par Pénélope.
C'est faux, hein, parce qu'on sait depuis le canard de mercredi dernier que Pénélope Fillon a été l'assistante parlementaire de son mari entre 1988 et 1990. Alors, deuxième mensonge, enfin, ou plutôt approximation, là encore, pendant ce même JT de TF1.
Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences.
Bon, là, les enfants n'étaient pas encore avocats, ils étaient en train de faire leurs études de droit, et ce n'était pas vraiment des missions précises, ou alors plus précisément, ils étaient eux-mêmes attachés parlementaires auprès de leur père quand il était sénateur entre 2005 et 2007. Voilà, alors, un sénateur, à en croire l'affiche du site nosenateurs.fr, qu'on peut retrouver là, voilà, on peut voir que le sénateur Fillon n'a pas été très très assidu. Et je passe maintenant au dernier mensonge, et là c'était dimanche dernier au meeting de la Villette. On écoute.
Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe.
Voilà, bon là encore c'est faux. Enfin, c'est surtout impossible parce que chaque député est obligé d'avoir un compte dédié sur lequel est versée l'indemnité représentative de frais et de mandat qu'on appelle l'IRFM, environ 5 800 € par mois et qui sert en général à payer le local de la permanence. Et bon, il se trouve que Fillon a plusieurs comptes auprès du Crédit Agricole, dont des comptes d'épargne. Il n'en a pas juste un seul. Et je voudrais conclure en disant que le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Et l'enquête, ça a été étendue jeudi hier, donc aux enfants de François Fillon.
Alors, la première question, je ne sais pas si la sociologue a quelque chose à nous dire sur les trois extraits qu'on vient de voir, là, qui paraissent proprement incroyables et qui ont aggravé le cas de François Fillon depuis le lancement de l'affaire. Enfin, voilà quelqu'un qui sait, quand il est sur le plateau de TF1, qu'il est sous les projecteurs des 15 journalistes d'investigation les plus pugnaces de la place de Paris. Je ne sais pas si après, quand on appelle ça mensonge, approximation, gaffe, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais est-ce qu'il peut y avoir, à cet amateurisme de sa défense, des explications sociologiques? Ou est-ce qu'elles sont uniquement psychologiques? Et là, vous dites, moi, la sociologue, ce n'est pas mon...
Ah ben non, moi, en réalité, je ne renonce jamais.
Alors, très bien.
Avec la sociologie, on peut aller très loin.
Alors,
quand même,
dans
les explications. En réalité, bon, vous avez parlé de mensonges, d'approximations, d'amateurisme. Mais en réalité, moi, je trouve que je suis face au fonctionnement normalement marxiste d'une classe sociale qui comprend la famille Fillon, c'est-à-dire qui comprend des hommes politiques qui sont au sommet du champ politique, qui ont des liens avec les plus grands hommes d'affaires comme Marc Ladreille de la Charrière, qui vient au secours de Pénélope Fillon lorsqu'il faut combler la perte de revenus de François Fillon, qui n'est plus Premier ministre.
On y viendra.
Voilà.
On y viendra.
Et
mais là, sur les...
Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là grandissent et vivent tout le temps entre eux, dans un entre-soi de classe absolument permanent. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a très peu de représentants des ouvriers et des employés, pour ne pas dire pas du tout, que ce soit dans les cercles, que ce soit dans sa société de conseil, que ce soit dans les remises de légions d'honneur, ils sont toujours entre eux, dans une consanguinité sociale de tous les instants, qui fait qu'ils se sentent impunis. Il y a une impunité de classe qui est extrêmement forte. Et ils se croient véritablement les meilleurs. Il y a une phrase de Paul Nizan que j'ai mémorisée dans Les chiens de garde, écrit en 1932, qui est tout à fait révélatrice, qui colle très bien comme exergue pour l'histoire de Fillon. La bourgeoisie travaille pour elle seule. Elle exploite pour elle seule, elle massacre pour elle seule. Mais elle doit faire croire qu'elle travaille qu'elle exploite et qu'elle massacre pour le bien final de l'humanité. Mais elle doit faire croire qu'elle est juste. Et elle-même doit le croire. C'est ça qui est important, cette chute. Et elle-même doit le croire. Si bien qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est illégal, c'est pas toujours illégal, c'est immoral.
Et vous pensez que cette explication de l'impunité tient dans le cas de Fillon? Je veux dire, Fillon, il exerce quand même une activité politique depuis longtemps, ce qui veut dire qu'il a été en contact avec la presse d'investigation, des affaires, ce qu'on appelle des boules puantes. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui sait comment ça marche. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas resté dans son manoir de la Sarthe jusqu'à avant-hier. Et l'impunité, le sentiment d'impunité peut survivre à une expérience comme celle qui a été la sienne.
Oui, je pense que ce sentiment d'impunité ou qui fait barrage total à tout sentiment de mauvaise conscience ou de culpabilité, même lui qui a instrumentalisé sa foi chrétienne il y a très peu de temps, je ne me souviens plus sur quelle chaîne de télévision.
À propos de la sécurité sociale, en disant « je suis chrétien, je ne peux pas porter atteinte à la sécu ».
Voilà. Donc voilà. Et donc ce sentiment d'impunité est plus fort que les valeurs morales de partage, d'égalité, de morale qui sont portées par les classes populaires et par les classes moyennes et qui n'ont pas cours face à une classe sociale qui est mobilisée en permanence pour la défense de ses intérêts.
Mais même si, Monique Pinson-Charlon, même si en l'occurrence ça paraît suicidaire, son comportement là, dans les trois extraits qu'on vient de voir, est suicidaire.
On peut le ressentir comme ça, je suis d'accord.
De fait, c'est un fait.
Mais on va voir comment il va pouvoir rebondir, comment il va se sortir de cette impasse.
Oui, ça, on va essayer de le voir. Alors, toujours est-il qu'il n'a pas été le seul à apparaître sur les plateaux pour porter ses réactions à l'affaire. Il a entraîné derrière lui tous ses soutiens politiques ou une partie de ses soutiens politiques.
Oui. Et pour l'illustrer, ses soutiens, on vous a préparé avec Adèle Bello un montage, ou plutôt un best-of, des best-of des arguments en défense de Fillon, arguments plus ou moins foireux.
Je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article.
Ce qui est incroyable, c'est que parce que c'est une femme, il faudrait peut-être la cantonner, comme j'ai lu dans cet article, à la confection de confiture ou alors de tarte aux pommes.
Le travail politique réalisé par François Fillon depuis 1998 est la preuve du travail réalisé par son épouse.
Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire en fait d'employer son conjoint?
Si on l'interdit pour les hommes politiques, il faudra l'interdire pour les épiciers, les bouchers.
Mais c'est pas de l'argent public, le salaire d'un épicier.
Si par exemple, si vous prenez par exemple un médecin ou un chirurgien qui opère avec sa femme infirmière ou un médecin qui a sa femme assistante médicale, pardonnez-moi de vous dire qu'avec la sécurité sociale, il vit à 90% d'argent public.
Un collaborateur parlementaire, d'ailleurs, c'est un motif de fierté chez nous, en brut, en moyenne, c'est 3 250 € brut pour les femmes et moins de 3 000 € pour les hommes. Ça doit être un des rares cas où les femmes sont mieux traitées que les hommes.
On peut avoir de jeunes étudiants qui se retournent vers leur père en disant « toi qui peux tout, tu peux peut-être nous aider aussi à travailler ». C'est des choses qui arrivent dans toutes les bonnes familles.
Une réaction?
C'est la défense de la classe, c'est parfait. On voit bien comment il est défendu, porté.
Mais encore une fois, avec les arguments les plus maladroits, les plus abracadabrantesques,
je suis d'accord avec vous, mais il faut vous rendre compte que la classe politique est tellement dissociée, déconnectée du peuple, que le mensonge est devenu une manière de gouverner aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Ils s'en tapent de dire ça. Nous, on se dit, c'est pas possible qu'ils se défendent comme ça. Ils disent ce qui leur vient, ce qui se passe.
Mais pas son Charlot, déconnecté du peuple. Je veux dire, ce sont des gens qui, chaque week-end, rentrent dans leur circonscription. Pendant 2 jours, 3 jours, ils sont en contact de leurs électeurs. Et d'ailleurs, ce que tout le monde dit, c'est que la deuxième semaine de l'affaire, si vous voulez, c'est justement les retours de ces électeurs qui ont fait qu'ils commencent à lâcher Fillon les uns après les autres.
Ça, c'est autre chose que ses concurrents veuillent qu'il lâche.
Mais vous dites déconnecté de leurs électeurs.
Oui, c'est très important parce que si vous voulez, comment est-ce qu'ils vivent leurs électeurs? Comment est-ce que ces grands bourgeois vivent le reste de la société? il y a des processus de déshumanisation, de mépris de l'autre dissemblable qui sont extrêmement forts. C'est une instrumentalisation de leurs électeurs. Ce qu'ils cherchent, c'est des voix. On a vu François Fillon instrumentaliser la religion catholique. Ils sont sans cesse en train d'instrumentaliser pour le bénéfice de leur prédation, pour le bénéfice de leurs privilèges, pour le bénéfice de leur pouvoir. Et donc, nous, si vous voulez, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est qu'on n'a pas la même tête. Ils pensent de façon différente de nous, ils utilisent des mots différents de nous, ils sont sur une autre planète. Et c'est très difficile, nous qui avons des valeurs d'égalité, de partage, qui avons des valeurs morales très fortes, eux, non. C'est pour ça que je reviens à cette phrase de Paul Nizan, qui est essentielle. Il faut comprendre le fonctionnement de classe d'une oligarchie qui, aujourd'hui, s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs.
Nicolas Thibault, votre réaction sur le montage qu'on vient de voir, là, alors vous êtes assistant parlementaire, c'est-à-dire que les élus, vous les côtoyez, vous les connaissez, notamment les élus, les Républicains, puisque vous êtes assistant de deux députés, les Républicains. Est-ce que vous faites de ce montage la même lecture que Monique Pinson-Charlot?
Alors déjà, moi, je suis là pour parler des collaborateurs parlementaires.
Ce qui ne m'empêche pas de vous poser une question.
Absolument. Vous pouvez me poser toutes les questions et je peux vous apporter les réponses qui me semblent utiles à la compréhension de vos spectateurs. Ce que je regrette néanmoins, c'est qu'on mette les projecteurs sur la profession des collaborateurs parlementaires parce que c'est une vocation, une profession, mais c'est aucunement une fiction, collaborateur parlementaire.
Allez, moi, je vous interrogeais sur le montage, là. On va parler des collaborateurs D'accord. parlementaires dans une seconde.
Bah, écoutez, ce que j'aurais souhaité, c'est que parlementaires en question se concertent pour voir véritablement quels étaient les salaires moyens des uns et des autres, la moyenne de salaire. Alors, je ne parle pas de celle du Sénat, parce que je ne connais pas, mais à l'Assemblée. Et puis surtout, le travail des collaborateurs est effectif et qu'on peut le prouver. C'est-à-dire que je vous expliquerai si vous le souhaitez, mais ce n'est pas très compliqué à prouver.
On va le voir tout de suite, puisque effectivement, le métier de collaborateur parlementaire a aussi donné lieu à un certain nombre de reportages.
Oui, je le disais en introduction, hein, ça a eu au moins le mérite de mettre la lumière sur votre métier. Et on peut dire qu'il a intéressé quasiment toutes les grandes chaînes, on regarde.
Depuis l'affaire, donc Penelope Fillon, le Penelope Gate, il y a donc une profession dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît finalement assez mal, c'est le métier d'assistant parlementaire.
Assistant parlementaire, ça ne vous a pas échappé, c'est un métier dont on parle beaucoup en ce moment.
Alors l'affaire Fillon, ça nous aura permis de découvrir un nouveau métier qui s'appelle le métier de collaborateur parlementaire.
Est-ce que vous avez votre badge ?
Moi, j'ai tout à fait mon badge.
Je peux le voir ?
Oui, qu'on présente tous les matins à l'accueil. Tous les collaborateurs et collaboratrices ont normalement ce badge.
On a tous une carte de l'Assemblée nationale, enfin un badge officiel.
Même si vous êtes en circonscription, vous en avez un ?
On nous arrive d'aller à l'Assemblée nationale, on l'utilise, elle nous permet de rentrer au Palais Bourbon.
Votre journée commence toujours à 8h43. 45, 47,
je vais vous mettre large.
Et c'est ici que vous venez tous les jours ?
Oui, c'est la permanence parlementaire.
Bienvenue à la permanence du député Gosselin. Voici mon bureau dans lequel je travaille 5 jours sur 7, 35 heures par semaine.
Est-ce que vous pourriez travailler de chez vous ?
Non, non, non. Non, on ne peut pas travailler de chez nous.
Donc vous, par exemple, vous gagnez combien ?
1 600 € net par mois.
Oui. Donc, voilà. On est loin des 8 000 € bruts de Penelope Fillon, quoi.
Et vous, par mois, vous gagnez combien ?
Moi, je suis correctement payé.
Vous n'êtes pas à 5 000 euros ?
Je ne suis pas du tout à 5 000 euros. Non, non, pas comme Penelope Fillon qui apparemment n'a même pas vraiment travaillé ici.
J'ai 2159,41.
Ça, c'est votre salaire net ?
Ouais, c'est mon salaire net.
Vous gagnez beaucoup moins que Penelope Fillon, apparemment.
Apparemment.
Alors, évidemment, si les journalistes s'intéressent à ces points-là, c'est pas par hasard. Puis, je parle du badge, de la présence d'un bureau physique dans la circonscription et du montant du salaire. Alors, on va les prendre les uns derrière les autres. Mais si on s'intéresse à ces points, c'est pas par hasard, parce que c'est justement les points sur lesquels, apparemment, enquête la police pour essayer de savoir si le travail de Penelope Fillon était ou pas fictif. Alors, premier point, le badge. Alors, toute la presse a rapporté qu'après une perquisition à l'Assemblée, il a été établi que Penelope Fillon n'avait pas de badge d'accès à l'Assemblée. Est-ce que ça veut dire que c'est un boulot fictif ?
Alors, le badge, on va essayer de rétablir les choses. Quand vous êtes physiquement à l'Assemblée nationale, dans votre bureau, il vous faut un badge pour accéder parce qu'il y a des portiques de sécurité, il y a un collègue qui l'a expliqué, et vous êtes obligé de l'avoir pour y entrer. Quand vous êtes en circonscription, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un badge parce que si vous ne venez pas fréquemment à Paris, à l'Assemblée nationale, on ne vous fait pas un badge. Vous venez une fois de temps en temps, et bien là, on vous fait rentrer avec une modalité différente. Bon. Donc, le badge, c'est pas un élément probatoire, si vous voulez. Hein. C'est un élément qui permet d'avoir pour nous une carte d'identité professionnelle. Ça, c'est depuis cette législature. Vous l'avez peut-être vu, voilà, carte professionnelle d'identité, ce qui permet d'attester véritablement un début de reconnaissance de notre profession. Et puis, vous voyez qu'on les renouvelle donc chaque année. Là, donc ça s'arrête un peu après la fin de la législature, de la présente législature. Voilà. Donc, simplement, à Paris, oui, mais en province, en circonscription, d'accord, pas obligatoire.
Alors, si elle est en circonscription, est-ce qu'elle pouvait travailler sans bureau, puisqu'on a expliqué qu'elle ne disposait pas d'un bureau personnel et qu'elle effectuait son boulot à son domicile?
Alors, là aussi, la permanence parlementaire... Donc, chaque député a un bureau à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous d'accord, ils sont tous pareils, ils sont dans plusieurs bâtiments, voilà. En circonscription, théoriquement, le parlementaire a une permanence. Donc, ça peut être dans une rue fréquentée, pas forcément. Et généralement, le loyer est payé via l'IRFM.
Dont parlait Anne-Sophie.
Voilà. Et mais, par exemple, vous avez des députés-maires qui n'ont pas de permanence spécifique, qui reçoivent à leur mairie. Hein. Donc, là, dans les bâtiments qui sont ceux de la ville. Mmh. Bon. Alors, là aussi, est-ce qu'un collaborateur parlementaire peut faire du travail indépendamment d'un local physique ? Il peut le faire éventuellement. Il peut le faire éventuellement s'il accompagne.
C'est très simple. Est-ce que vous avez connaissance de collaborateurs parlementaires travaillant chez eux, à leur domicile ?
Bah, on peut faire du télétravail. Alors, je sais
non,
que.
Mais est-ce que vous en connaissez ?
Oui, oui. Mais attendez. Oui. Bah, j'ai un collègue qui une fois par semaine fait du télétravail parce qu'il a des problèmes pour se déplacer. Donc, il préfère le faire.
Une fois par semaine. Mais oui. Là, en l'occurrence, c'était en permanence. C'est-à-dire que.
Mais moi, je ne sais pas si Madame Fillon faisait du travail chez elle et si.
Ah, c'est ce qui a été expliqué.
Vous étiez dans le bureau du juste pour moi.
Attention, soyons clairs. À en croire la presse, c'est ce qui a été expliqué. Mais alors,
moi, je vous dis que la règle générale, c'est qu'un parlementaire a une permanence parlementaire, d'accord, dans sa circonscription. Alors, à moins que maintenant, on invente un nouveau système où vous auriez un camion comme un food truck qui viendrait dans chaque... ce qui peut être aussi un nouveau moyen de permanence parlementaire.
Le salaire.
Alors, le salaire. Là aussi, je vous remercie de m'inviter parce que ça permet comme ça de rétablir un peu les choses.
C'est pour ça qu'on vous invite.
Le député a une enveloppe, donc l'enveloppe crédit collaborateur, qui est passée de 9 138 euros en 2012 à environ 9 500, puisque je vous explique, le président de l'Assemblée actuelle avait demandé à ce que 10% de l'IRFM soit téléporté sur l'enveloppe du crédit collaborateur de façon à augmenter les salaires des collaborateurs. Si bien que ça montre aussi qu'il y avait un problème de salaire patent. Donc, sur ces... Donc 9 500 euros brut, vous pouvez embaucher de 1 à 5 collaborateurs. Donc ce qui veut dire que le salaire moyen quand vous commencez à l'Assemblée nationale est autour de 2 200 euros et au bout de 10 ans, vous pouvez prétendre ou espérer prétendre à peu près 3 000 euros.
On parle en net ou en brut là ?
Là je vous parle plutôt en net.
En net, d'accord.
Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'un député avec son enveloppe peut embaucher un collaborateur, 2, 3, 3 et demi, il y a des mi-temps. Hein, et donc... Ça divise naturellement d'autant l'enveloppe. Mais s'il embauche un seul collaborateur, rien n'empêche théoriquement qu'il lui donna l'intégralité, d'accord, de l'enveloppe. La seule restriction, c'est pour des emplois familiaux. Alors là, c'est le cas des maris, femmes, enfin épouses, enfants. Là, vous ne pouvez pas depuis 1996, donner plus de la moitié de l'enveloppe, ce qui fait à peu près 4 700 euros. Au Sénat, c'est un tiers. Nous, c'est la moitié à l'Assemblée. Et donc, ça limite d'autant, on va dire, le niveau. Hein.
D'accord. Est-ce que dans votre... Alors, même question que je vous posais tout à l'heure à propos des permanences. Est-ce que parmi vos collègues, ceux que vous connaissez, vous avez déjà rencontré des niveaux de rémunération atteignant les chiffres donnés pour Pénélope Fillon ? Alors, on peut rappeler d'ailleurs. Oui.
Pareil, là, on a entendu un peu plusieurs chiffres, mais si je me réfère à un article du Monde, elle aurait touché 3009 quand elle était attachée de François Fillon, et jusqu'à 7009 quand elle était attachée au suppléant Marc Joulot.
D'accord. Voilà. Alors, 7009, ça veut dire que ça mange la quasi-totalité de l'enveloppe.
Oui, alors là, vous avez la différence entre un emploi familial, donc quand c'était auprès de François Fillon, et un emploi qui n'est pas familial lorsque c'est auprès du suppléant de M.
Oui,
Joulot.
Comme elle n'a aucun lien de parenté avec lui, elle peut bénéficier de quasiment la totalité. D'accord. De la,
ouais. Alors, un collaborateur parlementaire à 7 900 €, est-ce que vous avez connaissance d'autres cas d'un salaire de ce niveau?
Alors, on s'échange pas sur nos salaires, mais à ma connaissance, c'est assez rare.
J'imagine que vous en parlez un peu, quand même.
Oui, franchement, c'est assez
entre
rare.
Vous.
Et je vous dis, les chiffres que je vous ai indiqués précédemment sont plus proches de la réalité.
Et si l'enveloppe, on va continuer à être très très précis, et si l'enveloppe justement dévolue aux attachés parlementaires n'est pas toute grignotée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe
vous avez raison d'attirer l'attention sur ce point, car jusqu'en 2012, lorsque vous aviez un reliquat sur votre enveloppe, le parlementaire pouvait reprendre ce qui restait, à moins qu'il donne une prime pour travail effectif et réel à ses collaborateurs. Depuis 2012, l'actuel président de l'Assemblée nationale a estimé que c'était impossible. Donc si il reste un reliquat, il est reversé systématiquement au budget de l'Assemblée nationale.
D'accord, ok.
Il est reversé, ou plus exactement, il n'est pas décaissé.
Il
n'est pas décaissé puisque les fonds, en fait, ne transitent pas, pour être très clair, par le compte du parlementaire. C'est-à-dire, le parlementaire dit à l'Assemblée, voilà, vous payez tant à M. Machin,
c'est en gestion déléguée,
tant à Mme Bidule, et c'est l'Assemblée qui fait les virements sur les comptes des collaborateurs.
Oui, on est bien d'accord. Sauf si le député est en gestion directe.
Ah, ça existe aussi.
C'est très marginal, mais ça peut exister.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est lui qui vous fait les fiches de paie, qui vous... Et donc là, c'est tout à fait différent, mais c'est très très marginal. Hein. En réalité, c'est le service des affaires financières qui donc a les contrats de travail qui sont enregistrés auprès de lui, qui s'occupe de l'établissement des fiches de paie et du versement sur le compte bancaire des collaborateurs parlementaires.
Donc le contrat de travail est théoriquement obligatoire.
Ah bah écoutez...
Non, je vous demande, c'est parce qu'on n'a pas retrouvé les contrats de Pénélope Fillon. Donc...
Alors ça, au moins en ce qui me concerne, mes contrats de travail, je les ai gardés précieusement. Ouais. Ce sont des contrats de travail, donc des CDI, des contrats de travail en bonne et due forme. Le droit du travail s'applique naturellement à nous. Et donc, ils sont signés et ils sont enregistrés au service de l'Assemblée nationale.
Donc, on est bien d'accord que c'est l'Assemblée qui rémunère en direct Pénélope Fillon pour le travail effectué auprès de son mari.
Dans la majorité des cas, en cas de gestion déléguée, oui.
Alors, une question qui me vient, ça peut paraître d'autant plus étonnant que les policiers n'aient pas retrouvé les contrats de Pénélope Fillon, puisqu'ils sont théoriquement au service central de l'Assemblée. Ils sont théoriquement conservés au service central de l'Assemblée.
Théoriquement, il doit y avoir une trace, à moins que l'Assemblée nationale ne garde comme archive que les débats parlementaires.
Ce qui vous étonnerait.
Alors, vous disiez tout à l'heure que votre poste n'avait strictement rien de fictif. Alors, c'est vrai que depuis quelques jours, revenait tout le temps sur le tapis le fait que votre profession était quand même très mal définie. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, il n'y avait pas de fiche de poste, on ne savait pas exactement ce que vous aviez à faire, et que aller au pressing récupérer une veste ou rédiger des textes de loi pour aider son député, tout ça pouvait faire partie de ce job-là. Ce flou-là, à votre avis, il sert ou il dessert aujourd'hui Pénélope Fillon et son mari, François ?
Il dessert avant tout les collaborateurs parlementaires qui mériteraient d'avoir un véritable statut. Parce que effectivement, il n'y a pas de définition précise. Alors, il y a eu des études sociologiques qui ont pu être faites. Il y avait un rapport de l'ancienne déontologue Noëlle Lenoir en 2013 qui avait essayé de faire une étude sociologique par rapport à un questionnaire qu'elle avait envoyé à tous les collaborateurs. Et c'était très intéressant. Non, en fait, le collaborateur parlementaire est là pour aider dans sa tâche parlementaire le député qui l'emploie. Donc, à partir de là, le député va fixer librement les missions qu'il souhaite assigner à son collaborateur ou à sa collaboratrice. Et effectivement, la majorité font du travail législatif, c'est-à-dire qu'ils vont préparer en amont les projets de loi, faire des notes, rédiger des amendements, les aider dans les discours. Et puis, d'autres missions existent, comme la tenue de l'agenda, bien sûr avec les réseaux sociaux maintenant, l'alimentation des comptes Facebook et Twitter. Et puis, il peut arriver aussi, ça m'arrive, de faire des visites. Je me mue en guide touristique parce que l'Assemblée nationale est visitée par beaucoup de groupes qui viennent chaque jour et notamment chaque trimestre puisqu'ils ont droit à deux visites. Et il m'arrive de faire aussi des visites. Si vous voulez, le collaborateur est c'est un polyvalent, c'est une boîte à idées et c'est aussi un peu un couteau suisse. Alors bon.
Vous êtes arrivé d'aller au pressing chercher les costumes ou les tailleurs de vos parlementaires ?
Non, pas encore en tous les cas.
On vous l'a jamais demandé. Non. Alors, dernier point sur ces investigations, Jean-Luc, pour cerner votre métier, l'affaire du mail, puisqu'il a aussi été établi que Pénélope Fillon n'avait pas de mail à son nom, de mail de l'Assemblée nationale, on regarde.
Est-ce que vous avez aussi une boîte mail qui vous permet de travailler
Oui, bah, l'adresse de l'Assemblée nationale, pgosselin@assemblée-nationale.fr, c'est l'adresse du bureau.
Voilà. Alors, il a été retenu à charge contre Pénélope Fillon le fait qu'elle n'avait pas de boîte mail à son nom. Est-ce qu'un collaborateur parlementaire a obligatoirement une boîte mail à son nom ?
Non. Alors, la boîte mail, dans la majorité des cas, bon, il avait été proposé à un moment donné, en 2010, de créer des boîtes mail pour les collaborateurs. Mais c'était très compliqué. Il y avait le nom assemblée-nationale.fr, le nom du député, et puis il fallait rajouter le nom, et puis finalement, ça intéressait personne. Et en réalité, nous avons tous la boîte mail de notre député, et nous utilisons cette boîte mail en signant les mails que nous établissons.
Voilà. Et pas de boîte mail à votre nom ?
Non.
C'est moins confortable comme condition de travail, non ?
Non.
Ça veut dire que du coup, si vous êtes 2, 3, 4 assistants parlementaires du même député, vous avez la même boîte mail tous les 4.
Oui, mais sauf que nous signons, par exemple, Nicolas Thibault, je vais parler à la troisième personne, pardon. Hein. je signe mes mails et ça permet comme ça de les archiver, de savoir qui a fait quoi.
Et vous ne revendiquez pas d'avoir votre boîte mail perso. Finalement, ça vous convient comme ça ?
Ah oui, absolument.
Très bien.
Parce que nous sommes dans l'ombre du député, donc moi, je n'ai pas non plus. Là, si vous voulez, depuis une semaine, les collaborateurs parlementaires sont mis. Mais moi, je suis. Il ne faut pas que le collaborateur se prenne pour le député et inversement. C'est-à-dire que chacun est dans son rôle. Hein.
Encore qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui deviennent députés. Et ce qui est d'ailleurs le cas de François Fillon, qui a commencé sa carrière comme assistant parlementaire. Quel regard portez-vous sur cette profession que vous connaissiez bien ou que vous découvrez à l'occasion de cette affaire ?
Non, je ne la découvre pas parce que je savais que c'était une profession au contour extrêmement flou. Je savais qu'on pouvait recruter au sein de la famille sans que ce soit pour autant illégal. Et moi, ça m'a toujours paru, comme sociologue spécialiste de la classe dominante, qui fonctionne entièrement sur le mode de la cooptation, c'est-à-dire que c'est jamais les sociologues ou les statisticiens qui décident qui fait partie des clubs du Gotha ou pas, ce sont eux-mêmes qui décident. Ça m'a toujours paru parfaitement homogène, cohérent et normal de leur point de vue, que les députés, qui ont quand même le pouvoir législatif entre leurs mains, or vous savez très bien que pour les dominants, ce qui est important, c'est de transformer leurs intérêts particuliers en intérêts universels, en légalisant ces intérêts particuliers.
Mais alors, monsieur Thibault, vous le voyez comment ? Vous êtes marxiste, Monique Pinson-Charlot. Monique Pinson-Charlot, vous êtes marxiste.
Oui.
Monsieur Thibault, c'est un dominant ou c'est un dominé ?
Écoutez, il a été d'une modestie à toute épreuve. Il s'est présenté comme collaborateur parlementaire avec beaucoup de précision. Moi, j'ai pris note de tout ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça très intéressant.
Mais sociologiquement,
il n'a pas cherché.
Sociologiquement, alors,
vous m'avez coupé. J'ai pas fini mon raisonnement. Donc je voulais simplement montrer que le flou qui a été très bien décrit par Nicolas Thibault correspondait parfaitement à la perception que Michel et moi nous avions de cette possibilité pour les députés de coopter les collaborateurs au sein de leur famille ou de leurs amis de classe pour précisément être dans cette confiance de classe, dans cette solidarité de classe, dans cette identité de classe qui va très loin quand c'est effectivement le même patronyme familial, la même richesse symbolique qui va les unir. Et c'est conforme au processus de cooptation généralisée.
Vous vous sentez en solidarité de classe avec vos parlementaires ?
Ah, je me sens en solidarité de classe avant tout avec mes collègues déjà, parce que nous formons une... Pas une caste, hein, et pas une classe non plus. Je sais pas quel serait le terme idoine. Je me sens en osmose intellectuelle et en confiance parce que il y a une relation de confiance qui existe avec son parlementaire. Vous êtes quand même là pour lui donner des conseils, vous êtes là pour le seconder dans sa tâche parlementaire. Donc, il faut forcément une relation de confiance. Bon, je vous remercie d'avoir évité de me faire un portrait négatif et j'en suis très flatté. mais j'essaie d'être le plus précis possible parce que ce que je souhaite à travers ma personne, mais c'est expliquer vraiment aux citoyens véritablement notre fonction et Et l'utilité qu'elle a.
Oui, non, vous avez peut-être été mis en lumière hein, depuis le début de l'affaire. Mais cela dit, au début, les collaborateurs ont beaucoup râlé en disant « Mais non, mais c'est bon, à l'Assemblée ou au Sénat, il n'y a pas que des fils d'eux. Il y a des, voilà, il y a des gens qui arrivent là de fait de leur parcours, de leurs études, pas forcément en Sciences Po d'ailleurs, et qu'on mettait un peu tout dans le même paquet. »
En l'occurrence, vous avez fait quelles études ?
Alors, je vais vous expliquer mon parcours. Effectivement, j'ai fait des études de droit à Caen, et un jour, il y a un collaborateur parlementaire qui est venu nous faire une conférence, et j'étais en licence. Et je me suis dit, j'ai laissé dans un coin de ma tête cette idée en disant, c'est quelque chose qui m'intéresse, et un jour, si j'ai l'occasion, j'irai voir ça de plus près. Et puis, donc, j'ai eu un DEA de droit public à Caen, j'ai fait un DEA de sciences politiques à Paris 2, et puis, il y a eu une campagne présidentielle qui s'est ouverte, c'était celle de 2002, au tapis rouge, donc avec Jacques Chirac, et il cherchait des militants. Donc moi, je suis venu.
Est-ce que vous étiez militant ?
Bah, pas trop, mais ça me donnait... Je voulais vivre une campagne présidentielle au cœur. Donc j'ai été affecté à la cellule courrier, où j'étais avec des gens de tous horizons, et on s'occupait d'affranchir le courrier qui était envoyé par le candidat à tous les gens qui lui écrivaient.
Bah, c'est un peu militant quand même. Quand on vient affranchir le courrier, c'est qu'on est quand même un peu militant dans une campagne.
On peut dire ça comme ça, mais au moins je vivais au cœur de la machine. Et ensuite, on nous a dit, bah, écoutez, il va y avoir les législatives, et ceux qui souhaiteraient éventuellement... proposer leur service à des députés, vous nous donnerez vos CV, on fera une bourse à l'emploi via le groupe. Alors UMP, je ne crois pas que ça s'appelait forcément comme ça,
mais ça a changé de nom.
Voilà, oui, à plusieurs reprises. Et après, donc, j'ai été contacté, j'ai passé des entretiens d'embauche et j'ai commencé en 2002. Et je tiens à vous dire,
pas de piston, pas d'oncle, pas de tante, pas de père, pas de mère.
Mes parents sont des petits commerçants en Normandie. Ils ont un café-brasserie. Moi, je suis.
Ça n'empêche pas de connaître éventuellement le député.
Mais... ça, c'est vrai. Mais moi, je suis arrivé comme ça et j'ai donc connu trois législatures. C'est la troisième.
Je vois Madeleine Passant-Charvet qui prend des notes. Ça me fascine toujours quand vous prenez des notes. Je me demande, mais qu'est-ce qu'elle note pendant
Alors, ben, je note qu'il est, donc il se défend. Vous lui avez dit, mais vous êtes un militant. Ouais. Et là, il n'a pas répondu, il n'a pas osé dire non, je ne suis pas un militant.
Il a dit un peu.
Parce que, le terme de militant vous gêne, parce que le fait d'être dans le système dominant, du côté du vent néolibéral, c'est naturel. Et le terme de militant ne vous paraît pas en adéquation avec votre engagement. Tandis que moi, on n'arrête pas si je passe là. Ça va, aujourd'hui, je suis à arrêt sur image. Mais quand je suis sur d'autres télévisions ou radios, systématiquement, je suis militante.
Ah bah, même ici, hein, la dernière émission que vous avez faite avec Hubert Védrine, il ne vous l'a pas envoyé dire. Hein. Vous êtes une sociologue militante,
oui,
etc., marxiste, voilà.
Oui, je suis d'accord avec votre travail de sociologue, mais pas avec votre engagement. Et donc, vous n'avez pas à être gêné d'être militant. Vous êtes un bourgeoisiste, vous défendez. Vous êtes quand même si vous n'avez pas d'origine sociale qui puisse expliquer votre accession au statut d'assistant parlementaire, il n'en demeure pas moins que vous avez quand même fait acte d'allégeance en faisant le courrier. Moi, je vois bien votre profil. Moi, je comprends bien que vous inspiriez confiance aux députés Les Républicains. Surtout que là, vous, c'est deux femmes, deux députées femmes, c'est ça ?
Absolument.
Hein ? Donc voilà.
J'ai beaucoup de chance de travailler avec des députés femmes.
Voilà.
Et pourquoi surtout deux femmes ? Pourquoi plus des femmes que des députés hommes ?
Ben, je ne sais pas, en tout cas, parce que...
Ben, je ne sais pas si vous dites surtout deux femmes. Non, pourquoi surtout deux femmes ?
Il est souriant, il n'a pas l'air...
Hommes peuvent aussi aimer les assistants parlementaires souriants.
Les hommes aussi précédemment. Hein, bon.
Enfin, c'était l'histoire. Ce que je veux vraiment que les téléspectateurs comprennent, c'est cette histoire d'une classe sociale qui fonctionne sans arrêt sur la cooptation. Cooptation qui peut être hétérogène.
Attendez, il vous explique le contraire.
Mais non,
il n'est pas fils d'archevêque,
mais cooptation sociale, ça veut dire la confiance dans la défense des intérêts
En l'occurrence,
de la
c'est
classe.
Plutôt de la cooptation politique, alors, plutôt que familiale ou sociale.
Mais politique, c'est de la cooptation aussi.
Bien sûr.
C'est tout le même processus.
Une réaction ?
Écoutez, j'admets le portrait que vous brossez. La seule chose, c'est que... effectivement, il faut être en osmose intellectuelle avec le député qui vous emploie.
Politique
aussi. Oui, j'ai pas d'exemple de gens qui aient pu travailler avec des députés de gauche, passer à droite, encore que ça...
Vous ne pourriez pas être assistant parlementaire d'un député communiste. Si ?
Ben, je pourrais faire ma révolution intérieure.
Et voilà, il faudrait une révolution intérieure.
Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que depuis que j'effectue cette activité, ça fait 15 ans, on ne m'a jamais demandé d'être encarté dans le moindre parti politique. Voilà.
Et, vous l'êtes, et de fait, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas ?
Je le suis là, mais je ne l'ai pas été pendant un certain temps.
Ah ouais.
Et c'était pas un, si vous voulez, au moment, c'était pas un critère d'embauche.
Et qu'est-ce qui vous a décidé à adhérer ?
Bah parce qu'à un moment donné, il faut quand même, il y avait les primaires qui arrivaient,
et puis
elles étaient ouvertes après, donc bon.
Vous n'avez pas besoin d'adhérer pour participer aux primaires, c'était ouvert.
Non, c'était ouvert.
Voilà. Bon, alors on passe au film de. Alors on va élargir un peu, hein, puisque là on a été strictement sur les parlementaires, mais il se trouve que un film que vous avez tourné il y a quelques années. Alors, dépassait le strict cadre des parlementaires.
Oui, que j'évoquais hein, lors de ma présentation au tout début de l'émission, un documentaire réalisé par Jean-Christophe Rosé, diffusé sur France 3 en 2008, qui s'appelle Voyage dans les ghettos du Gotha. Voyage, alors vous partez en expédition avec votre mari Michel dans le monde des riches, qui vous reçoivent d'ailleurs très courtoisement dans leur château avec leurs jolies robes et leurs chapeaux et leur réception somptueuse. Et au cours de votre exploration, vous avez croisé furtivement, je le disais aussi, Pénélope Fillon.
Je remercie également le Conseil régional des Pays de Loire qui nous aide depuis de nombreuses années. Et puis je voudrais aussi avoir la présence de la deuxième dame de France qui nous a fait l'honneur d'assister au palmarès du prix redouté aujourd'hui, Madame Fillon. Alors aujourd'hui, c'est promis, on ne vous parlera pas de politique, on vous parlera de beaux livres.
Voilà. Alors, ce que le film montre également, c'est aussi toute la puissance des réseaux dans ce milieu, hein, des bonnes familles, et notamment dans cet aparté où vous captez un échange entre la fille des Châtelains et un vieil ami de la famille.
C'est bien. Hein.
Elle est extraordinaire.
Elle est extraordinaire.
Elle
Maman,
est extraordinaire.
C'est pour moi un exemple de vie.
Elle est extraordinaire.
Extraordinaire. Elle fait ça si bien, si simplement.
Et puis là, n'étant pas sur place, j'admire encore plus. C'est ta dernière année, toi, Dauphine.
Peut-être. J'ai peut-être encore une année.
Tu travailles là maintenant et tu vas travailler.
Non, j'ai peut-être encore une année de master. Et j'ai envie de travailler un peu dans la banque pour avoir une petite expérience. Voilà. Et après, je continue dans le vin de toute façon.
Tu veux faire 2 ans de banque d'abord ?
Non, peut-être seulement. Une année. Ça dépend, on verra après des opportunités. Mais
oui,
juste peut-être une année.
Dauphine, évidemment, tu peux faire banque en sortant de Dauphine.
Ouais. C'est juste pour une banque qui investit dans le vin, c'est ce que je cherche. Comme les Rothschild, comme le Crédit Foncier, le Crédit Agricole.
Il est directeur général de Crédit Agricole Asset Management.
Vous me faites un beau cadeau, là.
Mais écoute, ça me fait plaisir de pouvoir te faire un beau cadeau.
Voilà. Je cherche un stage dans la banque.
Mais c'est parfait, parce que c'est lui qui est l'administrateur de tous les vignobles détenus par le Crédit Agricole.
Ah non, mais là, vous me faites un superbe cadeau.
Bon, et tu lui dis, donc, de la part de Gaël de Pontbriand, que Gaël de Pontbriand, que t'es un grand ami de tes parents, et t'as chaudement recommandé de... Non, mais attends, ça, c'est comme on dit maintenant... Maintenant, enfin, je peux dire ça, c'est un ami de 40 ans.
Juste curiosité, vous avez suivi après, vous savez si cette jeune femme a effectivement eu son stage grâce à cette relation ?
Alors là, je ne suis pas capable de répondre, non.
Vous n'avez pas suivi ?
Mais il est hautement probable que, bien entendu, je veux dire, ce qui est la scène qui est là est une scène qui nous paraît absolument extraterrestre, extraordinaire. Mais pour eux, c'est une scène banale. C'est une scène banale parce que, si vous voulez, sans arrêt, là, on le voit très bien au cours de cette fête des jardins, donc dans le château du Lude.
Dans la Sarthe.
Dans la Sarthe, tout près de la circonscription de François Fillon et de sa Pénélope. On voit bien qu'il y a un banquier, qu'il y a la deuxième femme de France, la deuxième dame de France, Pénélope Fillon, qu'il y a des aristocrates au patronyme familial très connu, comme les deux Nicolaï qui reçoivent ici.
Qui sont les châtelains du Lude. Hein, donc
les châtelains du Lude, voilà. Mmh. Et donc, on voit bien que ce sont tous les pôles dominants des différents secteurs de l'activité économique et sociale qui, comme ça, au cours d'une sociabilité mondaine autour du château, vont communiquer. Et donc, si vous voulez, on nous présente toujours le réel sous la forme d'un saucisson découpé en tranches. Voilà, et on vous donne en pâture une tranche du saucisson, alors qu'il faut travailler sans arrêt sur le saucisson entier. Ce que font les dominants, ils sont toujours dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Et c'est à nous qu'on donne en pâture l'histoire du conflit d'intérêts. Parce que là, c'est notre réaction, mais là, il y a conflit d'intérêts. Elle a fait des études d'œnologie, de banque, de finance à Dauphine, et paf, le directeur, un bonhomme, Gaël de Montbrillant, lui dit, mon meilleur ami, c'est le directeur général du Crédit Agricole qui est responsable de l'ensemble des vignobles du Crédit Agricole.
En quoi il y a conflit d'intérêts, là ?
Ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, elle devrait passer par des demandes spécifiques en envoyant son curriculum vitae.
Il n'y a pas ce droit.
Il y a
piston, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt à proprement
parler.
Oui,
c'est ça.
Là,
c'est les relations sociales qui permettent le capital social, qui permettent de toujours défendre les intérêts de la classe dans tous les instants, même les plus petits instants, comme ça, anecdotiques de cette scène.
Et alors, à propos de l'ostentation et du secret, par exemple, une scène comme ça, est-ce que les protagonistes, à un moment ou à un autre, vous ont demandé de ne pas la diffuser ? Est-ce que cette scène comme ça est gênante à leurs yeux ou finalement pas ?
Sur le coup, ça leur a paru, bien entendu, ça a été vécu comme quelque chose de faisant partie de leur vie ordinaire.
Parce que, alors, la jeune femme a un micro à chef, là, donc...
Oui, elle est suivie.
Vous la suivez, oui. Elle sait qu'elle est enregistrée.
Elle sait. Et donc, absolument.
Ah, oui, parce qu'il pouvait y avoir un doute. Oui.
J'allais vous poser la question. Oui. Hein.
Parce que c'est le personnage de cette partie du documentaire, et donc elle a son micro. Et, alors, sauf si elle vous a oublié, ce qui arrive, il arrive des fois que les gens...
Parce que c'est pas moi qui tenais la caméra, il y avait le personnel pour ça. Mais elle sait qu'elle a été filmée, et c'est vrai qu'elle a émis le souhait que cette scène qu'elle avait bien mémorisée ne soit pas montée.
Ah.
Mais le réalisateur et le producteur et nous, les chercheurs qui étions un peu à l'origine, qui étions les sujets, disons, de ce film, nous avons pensé que c'était une scène qui était extrêmement intéressante pour comprendre, justement, comment c'était possible que, finalement, toujours tous les pouvoirs et toutes les richesses soient toujours au sein des mêmes familles.
Quand elle vous a demandé de ne pas monter la scène, elle l'a expliqué comment ?
Mais ça n'est pas du tout passé par moi. Donc ça n'est pas.
Mais vous ne savez pas comment ça a été expliqué, comment cette gêne a été formulée ?
Ça a été formulé comme nous ne souhaitons pas que cette scène soit montée. Ça n'a pas été plus loin.
Non, ça rejoint, toutes ces questions qu'on se pose là rejoignent l'affaire Fillon, c'est-à-dire rejoignent cette question de savoir si, dans la manière dont cette classe se montre, on va dire, aux yeux des autres classes, il entre plutôt de la discrétion, plutôt de l'ostentation. Est-ce qu'on est entre la discrétion et l'ostentation ? Par exemple, il y a cette photo qui maintenant est dans tous les esprits de la famille Fillon, prenant son petit déjeuner dans le parc du du château des Fillon. Alors ça, c'est une image qui peut paraître très très provocatrice aux yeux des Français. Comment expliquer qu'ils se laissent photographier là ?
C'est-à-dire qu'ils assument parfaitement leur place dans la société. Il y a 5 enfants. Là, c'est le château qui symbolise la dynastie familiale en train de se construire. C'est le château qui symbolise la transmission des patrimoines de génération en génération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'image où les corps, la mise en scène entre le social objectivé dans le château et le social incorporé dans les corps de cette famille sont en homologie parfaite. C'est-à-dire, tout le monde est droit redressé à une allure, en tout cas, grande bourgeoise. On voit qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils sont faits pour leur château, 3000 mètres carrés, 14 chambres, je ne sais pas combien d'hectares.
6 hectares de terrain.
Plus 7 hectares
de fermage.
De fermage, avec 218 kilos de viande fraîche qui sont servies chaque année au patron, au propriétaire.
Alors attendez, expliquez-nous ça, là je pense que les gens ne comprennent pas. Là.
Oui. Ah bon, parce que ça fait un peu, je trouve, ça fait un peu régime féodal.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de viande?
Cette histoire, c'est que les terres agricoles font l'objet d'un contrat de fermage où ceux qui cultivent les terres des Fillons doivent chaque année donner de la viande et du blé.
Je suis surpris parce qu'il me semblait que ce genre de pratique était réservé au Moyen-Âge. Mais...
Ben oui, mais moi aussi. Et dans le canard enchaîné du 4 janvier.
Oui, ouais, que j'ai là, un article qui est ici, qui s'appelle « Un château et quelques oubliettes ».
Ça repose sur quelle règle?
C'est un contrat. Enfin, il y a un contrat qui a été déniché par Hervé Liffrand du canard enchaîné, qui est un des auteurs justement des révélations
Pour faire court, donc ces champs et ces prairies sont alors mis en fermage auprès d'un couple d'agriculteurs, lointain cousin de Dominique de Villepin. Le contrat stipule que pour jouir de ces terres, la famille de paysans doit verser chaque année au nouveau seigneur de Beaussay, donc François Fillon, un fermage à l'ancienne. Celui-ci est composé de 21 quintaux de blé tendre de qualité saine, loyale et marchande, et de 218 kilos de viande de bœuf de première qualité, pois vif.
Ça se passe pas comme ça avec vos députés à vous. De ce que vous savez, les deux députés dont vous êtes l'assistante ne possèdent pas de château.
J'ai une profonde méconnaissance du droit rural, manifestement, dans ce domaine. Et donc, il faudra que je me renseigne plus en avant.
Vous nous ferez savoir, alors, parce que...
Du moins de ces pratiques, parce que j'avoue que je ne me connaissais pas.
Je vous laisse.
Merci beaucoup.
Il faut lire le canard enchaîné. Moi, je croyais qu'à l'Assemblée, on lisait le canard enchaîné. Chaque semaine, religieusement.
On le lit beaucoup.
Mais pas assez, manifestement.
Ça, c'est un article du 4 janvier.
Voilà, d'avant l'affaire.
De cette année, oui.
D'avant l'affaire. Alors, en tout cas, retour de bâton, puisque depuis quelques jours, c'est pour l'anecdote, cette photo a été abondamment détournée sur les réseaux sociaux. Là, on voit le détournement. Fillon avec son assistante parlementaire et ses avocats, je veux dire,
Précisons que Nadine Morano, c'est un compte parodique. Hein,
c'est une fausse Nadine Morano. Comme quoi, ces photos sont des armes à double tranchant.
Oui, alors ces photos, je termine juste ce que j'étais en train de démontrer. Ces photos ont aussi pour fonction d'imposer ce que nous, sociologues, on appelle de la domination symbolique. Et c'est-à-dire qui est différente de la domination économique ou politique directement. La domination symbolique, c'est cette forme de violence qu'on impose aux classes moyennes et aux classes populaires qui font que on va se dire oui. C'est normal qu'ils soient au top des responsabilités. On le voit. Ils nous sont supérieurs. Ils ont l'air tous joyeux dans cette famille. Ils se tiennent bien. Ils ont un beau château. Le soleil est là. Enfin, tout a l'air parfait. Et moi, qui ai mon corps déformé, qui suis dans mon HLM, qui galère, on voit bien que je ne mérite pas d'être au top des responsabilités.
Vous pensez que c'est intentionnel? C'est-à-dire, vous pensez que quand François Fillon accepte de poser pour Paris Match dans la posture qu'on voit là, il se formule tout ce que vous dites là?
Tout se passe comme si.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se le formuler, parce que ça va de soi. C'est-à-dire que c'est le résultat de toute une éducation de classe, c'est le résultat de quelque chose qui, pour lui, fonctionne de manière naturelle. Il a, si vous voulez, ce que nous, sociologues, on appelle un système de disposition, un habitus. Et puis, pendant toute sa vie, lui et ses camarades de classe, ils vont rencontrer des conditions pour épanouir leurs pratiques qui seront conformes à leurs désirs profonds.
Oui, mais vous dites ça comme si c'était tout à fait naturel et univoque. Or, si vous voulez, en France, l'argent se cache plutôt par rapport à une culture comme la culture américaine où l'argent s'exhibe, si vous voulez. Mm-hmm. Ce qui est communément admis de dire, c'est qu'en France, pour vivre heureux, vivons cachés.
Oui, ceci était valable avant l'arrivée de François Mitterrand en 1981 et depuis le tournant de la rigueur en 1983, où le néolibéralisme a été installé à tour de bras dans un système totalement oligarchique, mobilisant aussi bien la gauche libérale que la droite conservatrice. Eh bien, à partir de ce moment-là, l'argent s'est au contraire affiché.
Il y a un tournant en 1983.
Ah oui, c'est le tournant, et franchement, en 1983. C'est en 1986 que Pierre Bérégovoy dérégule tous les marchés financiers. Et quand vous demandez à un banquier, dont je ne citerai pas le nom, entre le fromage et la poire lors d'un dîner dans le 7e arrondissement, de me dire quel est son ministre de l'économie préféré, il a tout de suite dit Pierre Bérégovoy. Pourquoi? Parce qu'il a dérégulé, il a fait le job. Merci.
Oui, mais enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, Pierre Bérégovoy, quand le Canard enchaîné révèle qu'il a bénéficié d'un prêt d'un million sans intérêt de la part d'un homme d'affaires, Amine Mitterrand, il se suicide. Donc, vous voyez, cette dialectique entre
mais vous ne savez pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, d'abord, est-ce qu'il s'est suicidé? Et par ailleurs, les raisons de son suicide. Et peut-être que tout simplement, d'avoir dérégulé tous les marchés financiers et d'avoir fait échouer la gauche en 1993.
Oui, alors, bon, alors, OK, voilà, on ne va pas se lancer dans une joute sur les raisons profondes du suicide de Pierre Bérégovoy, dont ni vous ni moi ne connaissons vraiment les raisons. Non, juste par rapport au château, ce qui est intéressant, c'est que quand Fillon, en 2013, sur le plateau de David Pujadas, dévoile son patrimoine dans une émission extrêmement, dans un mouvement très spectaculaire, écoutez bien le mot qu'il utilise.
Ça veut dire que vous ne voterez pas ce projet de loi annoncé pour le 24 avril, par exemple ?
Je regarderai ce qu'il y a dedans, mais a priori, je considère qu'il n'y a pas besoin de projet de loi. Je récuse l'expression de moralisation de la vie politique. Je récuse l'idée que les hommes politiques soient tous corrompus, comme on essaye en ce moment de le faire croire. Et je dis à François Hollande que l'attitude qu'il a choisie n'est pas une attitude de chef, c'est pas une attitude de président de la République. Alors je vois bien qu'il y a maintenant une sorte de doute qui plane sur l'ensemble des responsables politiques.
Et c'est pour ça que vous avez choisi de dévoiler.
C'est pour ça que je dis, même si je n'aime pas ce voyeurisme, je publierai la déclaration de patrimoine que d'ailleurs depuis des années je fais au début de mon mandat
à l'Assemblée nationale
et à la fin de mon mandat.
Vous nous avez dit la révéler ce soir.
Non, je vous ai dit que je la tenais à votre disposition. Je suis propriétaire d'une maison dans la Sarthe que j'ai achetée il y a 20 ans, 440 000 euros. J'ai moins de 100 000 euros d'épargne et j'ai deux voitures qui ont plus de 10 ans.
La valeur de votre maison, pour aller jusqu'au bout, vous l'avez achetée il y a 20 ans,
440 000 euros. C'est l'argent que j'ai en l'empruntant. Aujourd'hui, je pense qu'elle vaut à peu près 650 000 euros. C'est mon seul patrimoine. Je n'ai rien d'autre en dehors de quelques comptes d'épargne qui sont inférieurs à 100 000 euros.
Voilà, une maison. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que la photo qu'on voit derrière lui est effectivement une photo dans laquelle, la splendeur de la demeure apparaît de manière quand même moins éclatante que dans la photo de match. Alors, il montre ou il cache ? On ne comprend plus. Il arrive en disant... Pujadas lui dit « Vous avez voulu révéler ». Il dit « Ah non, je n'ai pas voulu révéler, je tiens à votre disposition ». Ce n'est pas trop bien ce que ça veut dire, « je tiens à votre disposition ». Et puis finalement, il parle d'une maison. Et puis finalement, il donne une valeur. On ne comprend plus, si vous voulez, si leur stratégie est de montrer ou de cacher. Enfin,
Non, là, je pense que c'est votre interprétation et elle est parfaitement respectable. Moi, je n'ai pas la même interprétation puisque je dévoile, je comprends tout de suite.
Mais là, vous comprenez quoi, là ?
Alors, dans ce milieu-là, on ne dit jamais quand, par exemple, Pénélope Fillon arrive chez la comtesse de Nicolaï au château du Lude, elle ne va pas dire le château du Lude, parce qu'on ne dit jamais château, on dit maison. Dans ce milieu, on ne dit jamais château, c'est vulgaire, on dit maison, la maison de famille. Donc François Fillon, il est parfaitement dans son rôle de classe lorsqu'il parle de maison à propos de ce que nous, on appelle un château. Alors là, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans l'interview avec David Pujadas, c'est qu'on est, si j'ai bien compris, en avril 2013, c'est-à-dire quelques jours après le fait que Jérôme Cahuzac est avoué et qu'il sait là que la loi sur la transparence financière, la transparence des patrimoines de la vie politique, va aboutir. En effet, cette loi est votée au début du mois de décembre 2013. Et quand on regarde attentivement la presse aujourd'hui, on s'aperçoit que le contrat, que la paye, disons, de Pénélope Fillon s'arrête en novembre 2013, parce qu'il sait qu'à partir du 1er janvier 2014, il va être obligé de déclarer ce que sa femme gagne. Mmh. Alors, si vous voulez, quand on reconstitue la généalogie de cette affaire de la famille Fillon, on voit très bien que c'est un montage qui est parfaitement assumé. C'est-à-dire que dès qu'il est élu sénateur le 18 septembre de je ne sais plus quelle année, dès le 1er octobre, sa fille est embauchée. Sa fille travaille jusqu'au 31 décembre 2006. Dès le 1er janvier 2007, Charles, le frère, est embauché. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de perte au détriment de la famille.
C'est bien géré.
Ouais. Alors, juste un petit mot sur cette déclaration d'intérêt et d'activité qu'il a été effectivement obligé de faire, hein, comme tous les parlementaires, ils sont à peu près 900 à ce jour. Effectivement, dans le nom des collaborateurs parlementaires ne figure pas celui de son épouse, Pénélope Fillon, mais trois autres noms. Et à l'identification du conjoint du partenaire, qui est flouté, est-ce que son nom n'apparaît pas, la description de l'activité professionnelle, c'est collaborateur revue des deux mondes.
Alors, ça c'est une avancée quand même parce que donc c'est la déclaration que chaque député met à la disposition de la HATPV, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, et que chaque citoyen peut consulter. Donc depuis que c'est en vigueur, chaque citoyen peut vérifier le nom, prénom et l'activité des collaborateurs. Pas les salaires. Hein, tout à l'heure vous disiez non, il n'y a pas les salaires. Par contre, ce qui serait souhaitable, c'est que cette Haute Autorité mettent à jour les fiches, car certaines ne l'ont pas forcément été. Moi, j'ai des collègues qui m'ont indiqué qu'il y a eu des changements dans l'équipe parlementaire précédemment, en 2016, et que malgré plusieurs signalements, ça n'avait pas été mis à jour. Bon. Je pense que ça va l'être.
Le message est passé. Alors, on parlait de la revue des deux mondes, justement, ça nous amène sur le dernier personnage de cette histoire sur lequel je voulais que nous passions quelques minutes aussi.
Un petit peu de temps, oui, cette revue des deux mondes qui est la propriété de Marc Ladret de la Charrière. Donc Pénélope Fillon y a été embauchée de mai 2012 à décembre 2013 pour un salaire de 5000 euros bruts par mois. Or, selon le Canard enchaîné qui révèle l'affaire, l'ancien directeur de la revue, Michel Crépuy, lui a affirmé ne l'avoir jamais vu, ni eu au téléphone, ni par mail. Et de fait, Pénélope Fillon, qui signe du nom de Pauline Camille, est l'auteur de deux notes de lecture parues dans la revue de Monde. Elles sont ici. Donc ça c'est la deuxième note où on voit qu'elle est quand même très 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 courte.
Alors deux notes en combien de temps?
Deux notes de mai 2012 à décembre 2013.
D'accord.
Pour un salaire total de 100 000 euros.
18 mois.
Alors je peux pas m'empêcher de raconter que évidemment cette histoire fait les choux gras des réseaux sociaux, qui se marrent, qui se moquent de ce job en or. Et je voudrais vous signaler un jeu qui a beaucoup circulé juste pour le fun, hein, qui s'appelle le Pénélope Cash Generator, voilà, et qui vous propose de trouver combien tu aurais pu récupérer de thunes sort sourcil. Alors vous mettez votre texte et si on fait le ratio avec ce que Pénélope Fillon a pu gagner en faisant ces deux notes de lecture, eh bien là, voyez, notre équipe technique est déjà à 1000 euros pour 35 caractères. Bravo.
Voilà ce que me rapporte une simple phrase. Donc, Marc Ladret de la Charrière.
Oui, donc revenons à lui. C'est un homme plutôt discret, hein, qui apparaît peu dans les médias, enfin qui fut quand même l'invité au micro d'Europe 1 et c'était le 30 novembre dernier. On l'écoute.
Je sais que vous avez des amis partout. Par exemple, François Hollande, que vous avez cité tout à l'heure, mais aussi François Fillon. Donc, en politique aussi, vous êtes éclectique.
C'est-à-dire, François Fillon, il faut savoir que je le connais depuis plus de 30 ans. C'est le compagnon de route de mon grand ami Philippe Séguin. Nous avons fait des combats ensemble. Et d'ailleurs, le rire tonitruant de Philippe Séguin me manque. Ouais. En ce qui concerne...
C'est vrai que ce n'est pas François Fillon qui a un rire tonitruant.
Mais pour revenir à François Fillon, si vous voulez, je crois que... Il a pu voir que la France devait changer de logiciel. Hein, parce que le logiciel dans lequel nous vivons, alors qu'il y a une mondialisation, alors qu'il y a la digitalisation, remonte il y a 30 ans. Et simplement un exemple, c'est que le modèle social dont on était très fiers, oui. Depuis 30
mais
ans, où
vous,
est-ce qu'il nous a conduit?
Mais comment vous pouvez être ami avec les emploi. Deux François et avec l'autre, François
alors,
Hollande?
Alors, François Hollande, je le connais aussi depuis 20 ans. Nous avions des bureaux communs, pas communs, mais proches, l'un rue Solferino, moi rue de Lille, et nous allions prendre des cafés ensemble. Ça crée des liens, monsieur Elkabbach.
Ouais.
Et je suis très reconnaissant à lui de m'avoir toujours soutenu dans mes actions d'accès des jeunes
merci,
à l'éducation merci artistique.
Merci aux deux François, Marc. Ladret de la Charrière.
Bon, là, on a l'impression qu'il est fait pour vous, quoi. On a l'impression d'un personnage qui a été créé pour Monique Pinson-Charlot.
Pour Monique et Michel, oui.
Et Michel.
Oui, alors c'est vrai que Marc Ladret de la Charrière, qu'on suit depuis longtemps, Michel l'avait longuement interviewé en 1999 pour un livre « Nouveau patron, nouvelle dynastie », où on essayait de comprendre comment un personnage issu de l'aristocratie de Ardéchoise, de l'Ardèche, où est le château familial de sa famille, totalement ruiné, lui-même dans ce qu'il Il fait du storytelling, mais enfin, il raconte qu'il n'avait pas d'argent pour financer ses études, donc il est pion en Seine-Saint-Denis, comme Michel, fils d'ouvrier, a aussi toujours été pion pour financer ses études. Ils avaient eu comme ça des moments d'empathie et de complicité un peu fortes. Et ensuite, Marc Ladreille de La Charrière réussit l'ENA, mais refuse de pantoufler tout de suite. Il démissionne. Lui, il a carrément, il est très fier de tout ça. Et puis, il a fait rebondir. Il a fait des coups formidables dans les affaires en bénéficiant, si vous voulez, un peu comme l'histoire de Bolloré, du capital social qui s'était accumulé dans sa famille au fil des générations. Parce que le capital social, c'est comme le capital économique et le capital culturel, ça se transmet de génération en génération. Donc il a pu rebondir et il se trouve aujourd'hui à la tête, c'est une des plus grandes fortunes de France, c'est un milliardaire qui est le propriétaire d'une des trois plus importantes agences de notation au monde, Fitch Ratings, mais qui c'est qui a dit qu'il était discret? C'est vous, Anne-Sophie, qui avait dit
dans les médias. Oui.
Parce que ben, on peut pas dire que
parce qu'on le cahier là. Voilà. Tout est dans le cahier. Hein.
Non mais il n'est pas de tous les plateaux télé.
En Grèce où il a contribué à la dévaluation de la note grecque, il n'est pas apprécié. Donc voilà. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, donc il a employé le terme mondialisation plusieurs fois dans tout le petit discours là qu'on vient d'entendre. En réalité, c'est la marchandisation du monde. Cet homme est un spéculateur financier de haut vol, mais pour légitimer cette richesse financière hautement spéculative et aux conséquences dramatiques pour des peuples entiers, il est obligé de légitimer ça, de maquiller ça à travers des investissements très importants dans l'art. Il a son nom à l'entrée du Louvre, il a donné beaucoup d'argent, il fait partie des grands donateurs, il fait partie du comité qui choisit les tableaux pour tous les musées de France, il est membre de l'Académie des Beaux-Arts, il a une fondation culture et diversité dont il a parlé là, et par exemple, alors vous allez rire avec mon cahier, très très bizarrement, en ce moment il a une exposition au musée du Quai Branly. Il est très ami avec Jacques Chirac. Et depuis l'affaire Fillon, si je ne dis pas de bêtises, toutes les dernières pages du Monde font l'objet de cette publicité.
Toutes ?
Tous les jours.
Tous les jours ?
Oui, pratiquement tous les jours. Ah, ouais. Donc voilà. Donc je me suis dit, est-ce que ceci a à voir avec cela ? On verra s'il entend cette émission et s'il souhaite corriger.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous laissez entendre ? Qu'il est en train d'essayer d'acheter le monde ?
Je n'irai pas jusque-là.
De se refaire une image.
Ce qui n'est pas négligeable pour la trésorerie du monde. Mais en tout cas, on peut l'interpréter à différents niveaux.
Voilà. Puis il y a d'autres aspects de cette histoire de la Revue des deux mondes. Il y a le fait que, effectivement, c'est une revue qui maintenant défend l'idéologie qui est l'idéologie libérale de Fillon et de la droite.
Ah oui.
Avec, voilà, en couverture du dernier numéro, un article sur Fillon, qui est rédigé par François-Olivier Gisbert. François-Olivier Gisbert étant le mari de l'actuelle directrice de la Revue des Deux Mondes, l'ancienne directrice de Elle, Valérie Torragnan. Enfin, il y a une espèce de mélange à la fois de la symbiose politique et intellectuelle et du fait que tout ça est une affaire de famille qui rend service à la famille Fillon. Quand Pénélope Fillon s'ennuie, on lui trouve un job. Voilà,
voilà, c'est la solidarité de classe. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est toujours prêt à rendre service à un représentant de sa classe. Et c'est pour ça que nous, avec Michel, on parle de corruption de classe. On parle d'une classe pas corrompue, mais en réalité on le pense, mais une classe qui fonctionne sur un mode corruptif, puisqu'ils sont toujours entre eux, et que c'est une petite caste qui détient tous les pouvoirs. Donc forcément, vous pourriez dire aussi que c'est une mafia, une caste, une confrérie de grandes familles. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est quand même dans une république, et qu'aujourd'hui, tous les rênes de l'économie et de la politique sont détenus par des représentants de grandes familles. Pourquoi ? Et ça, c'est très important dans l'affaire Fillon à dire, c'est qu'il faut absolument que les privilèges, les richesses et les pouvoirs au sein des grandes familles restent au sein de cette confrérie et ne ruissellent surtout pas vers les classes moyennes et les classes populaires. Et donc, il faut absolument qu'ils se marient entre eux, qu'ils restent entre eux et que cet argent, ces pouvoirs et ces richesses se transmettent de génération en génération au sein des mêmes familles.
Enfin, dans le cas particulier de Fillon, si je ne m'abuse, son père était notaire, oui. Donc n'était pas un noble qui vivait dans un château.
Vous avez raison, il y a des entrées et des sorties, et là, on peut dire que c'est une entrée fracassante, mais parfaite.
Oui, et peut-être un peu fracassée sur la fin. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Monsieur Thibault, je crois que vous devez nous quitter parce que vous avez un impératif. Monique, si vous pouvez rester quelques minutes, on va accueillir Mathilde Larère qui va nous parler d'un tout autre sujet. Mathilde, bonjour. On va passer avec vous des châteaux de François Fillon dont nous parlions il y a quelques instants aux montagnes verdoyantes des Alpes-Maritimes.
Exactement. Donc en fait, j'avais commencé mes dernières chroniques sur des colères, sur des énervements, et cette fois, non. Je voudrais partir de quelque chose qui m'a profondément touchée, qui m'a profondément émue. C'est la lettre de Mama Héroux, c'est ainsi qu'elle signe, la mère de Cédric Héroux, qui était sur le plateau d'Arrêt sur Image la semaine dernière, et dont je vais vous lire quelques extraits. « Monsieur le procureur, je vous fais une lettre. » Vous avez vu, ça commence comme le déserteur de Boris Vian, j'adore. « Je suis la mère de celui contre lequel vous vous acharnez. » Ma grand-mère paternelle a, elle aussi, en 1918, passé la frontière d'Italie à pied, par les montagnes. Elle a perdu le bébé qu'elle portait au cours de ce périple. Peut-elle a-t-elle croisé, alors, les grands-mères de messieurs Ciotti et Estrosi ? Qui sait ? Elle s'est louée, telle une bête de somme, pour tirer les chartons. Je me souviens d'elle, avec la lanière de cuir qui lui barrait le torse. Ma mère, quant à elle, était allemande. Ma sœur est née dans les geôles de la Gestapo, elles ont toutes été libérées par les Allemands. C'est ce sang-là qui coule pour moitié dans les veines de mes deux fils, que vous avez fait arrêter jeudi. L'autre étant de pur sang de Bretagne, c'est têtu un breton, ça n'a pas peur des tempêtes. S'ils ne sont pas français de souche, mais la souche, c'est ce qui reste d'un arbre mort, ça je trouve ça génial en fait. Ils ont des racines profondes et vivantes dans ce pays qui est le leur et qu'ils aiment. Alors elle explique ensuite que la famille était une famille d'accueil, que Cédric a été élevé dans une culture familiale de l'accueil des enfants en détresse, et signe, avec tout mon respect, Mama Héroux. Donc en plus de la profonde humanité qui s'échappe de ces mots, de la fraternité, de la solidarité qu'ils impriment, ce qui m'intéresse, c'est combien Mama Héroux mêle son histoire, la petite histoire pourrait-on dire, avec l'histoire, avec un grand H, la grande histoire. Et elle a bien raison de le faire, et moi aussi je voudrais vous raconter l'histoire de cette vallée pour mieux comprendre ce qui s'y joue. Donc la vallée de la Roya, c'est une vallée transfrontalière. D'ailleurs, Cédric Héroux, sur le plateau la semaine dernière, expliquait que pour aller de Nice à chez lui, il devait passer la frontière plusieurs fois. On l'écoute.
En fait, je livre à Nice donc tous les jeudis et en remontant donc à mon domicile, on passe obligatoirement par l'Italie. C'est une vallée un peu spéciale.
Voilà, c'est une vallée un peu spéciale et en fait donc cette frontière, elle est assez récente. Au XIXe siècle, la Savoie et le comté de Nice appartenaient au royaume du Piémont-Sardaigne. Mais en 1860, accord entre Napoléon III et le roi d'Italie, Nice et la Savoie sont donnés à la France, ce qu'entérine un plébiscite. Enfin, pas toute la région, puisque un petit bout de la Roya est laissé au roi d'Italie. Non, parce que vous comprenez, c'était les terres de chasse du roi d'Italie. Il ne faut pas déconner avec les terres de chasse, comme avec les châteaux de la Sarthe, enfin les maisons de la Sarthe. La frontière actuelle date donc en fait de 1947. En tout cas, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est un espace qui a longtemps été animé de circulations coutumières, enracinées dans les pratiques et qui n'avait pas posé de problème jusqu'à ce qu'on coupe l'espace par cette frontière, au demeurant mal indiquée, mouvante et fort perméable. Alors longtemps, les circulations continuent dans cet espace, toutes transfrontalières qu'elles sont devenues, parce qu'il y a un différentiel de développement économique entre la France et l'Italie. Pour l'Italie, l'émigration est nécessaire, c'est une soupape démographique et ça permet des rentrées de devises en Italie. Pour la France, l'émigration italienne permet de répondre à une pénurie de main-d'œuvre chronique. Alors donc les Italiens passent la frontière par les vallées, par la mer, par la Roya et se font embaucher en France. Ce qui n'est pas sans danger, comme le rappelait Mama Héroux. Mais la situation change. Au sortir de la guerre, il y a de plus en plus, la Première Guerre mondiale, il y a de plus en plus de migrants italiens, migrants économiques, mais surtout il y a des nouveaux types de migrants, les migrants politiques qui fuient le fascisme, on les appelle les fiorusciti. Or, Mussolini n'entendait pas que sortent ni les travailleurs, ni les politiques. Les milices fascistes patrouillent côté italien. En France, on voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces Italiens qu'on dénonce comme des communistes le couteau entre les dents. Et la crise de 1929 accentue le rejet de ces migrants. On est dans un contexte de montée de l'extrême droite. Voilà qu'on crie à l'invasion des Italiens, cette peur récurrente et infondée de la xénophobie. La frontière se ferme, le passage est de plus en plus périlleux. Logiquement et tristement, les passeurs peu scrupuleux, c'est le moins que l'on puisse dire, sévissent. Mais immédiatement aussi, une solidarité s'organise dans la vallée. Des militants communistes antifascistes se portent au secours des fiorusciti. Et par ailleurs, des bergers, des agriculteurs recueillent, hébergent, aident les migrants de passage. Dans les années 30, l'installation du nazisme va pousser sur la route de nouveaux migrants. Les juifs allemands, hongrois, autrichiens essaient de se réfugier en France et passent à leur tour sur les chemins de la Roya, à nouveau aidés par les habitants. Les dispositifs de contrôle se resserrent, mais rien n'endigue le flux, parce que tous les historiens, tous les géographes, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui vivent sur les frontières, vous le diront, aucun dispositif de contrôle n'empêchera jamais des gens qui fuient la misère, la guerre, la répression de passer. Le seul effet, c'est d'accroître le triste bilan des pertes humaines et d'attirer les passeurs. Pendant la guerre, la zone est italienne. Et ce qu'on ne sait pas trop, c'est que, en fait, dans la zone italienne, les Juifs sont plus à l'abri qu'en Allemagne ou dans la zone contrôlée par Vichy. Donc la zone est un lieu de refuge et pas très loin de la Roya, dans le village, par exemple, de Saint-Martin-Vésubie, il y a des Juifs qui sont réfugiés. Mais après le débarquement en Méditerranée, en 1943, la zone redevient allemande. Ça bouge tout le temps, les frontières, dans cette zone, de toute façon. Hein. Et les Juifs doivent partir d'urgence sur les routes escarpées de la vallée, où nombreux trouveront la mort. Beaucoup seront attaqués, mais beaucoup aussi seront à nouveau aidés par ces habitants de la Roya. Donc voilà l'histoire de cette vallée. C'est une histoire de passage, de migrants, d'uniformes, de contrôle, de passeurs sans vergogne, mais aussi d'hommes et de femmes qui ont su aider et tendre la main. Et forcément, une histoire pareille. Ça laisse des marques, ça laisse des souvenirs, ça laisse des lieux de mémoire, ça laisse des récits au coin du feu et ça laisse des fiertés. Et depuis quelque temps, dans cet espace, on sait bien qu'il y a de nouveaux migrants qui errent comme ceux d'avant sur les mêmes routes, qui fuient de nouveaux uniformes et de nouveaux passeurs. Et alors, les mêmes réflexes d'aide, d'entraide et d'humanité se réveillent et s'organisent. Cette histoire que je viens de vous raconter, d'autres historiens que moi l'ont racontée avant moi. Par exemple, Yvan Gasteau, qui est un enseignant-chercheur à l'Université de Nice. Le 29 avril, dans un article de Nice Matin, il faisait exactement cette histoire et concluait à l'aberration qu'il y a aujourd'hui à poursuivre pénalement ceux qui ne font finalement que refaire les mêmes gestes que faisaient leurs parents, que eux on appelle des justes. Alors, cet article, ça n'a pas du tout plu au préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc, qui s'est fendu d'un droit de réponse dans le même journal le 7 janvier. Article dans lequel il écrit « tranquille », l'historien dit « n'importe quoi », comme si lui, il savait quelque chose. Il tire des comparaisons absurdes, il dit que c'est une imposture historique et une injure. Non, parce que vous avez dû remarquer, la nouvelle marotte des politiques, c'est que, ou des éditorialistes, hein, c'est que quand la réalité ou l'histoire leur plaît pas, ils la nient. C'est faux, c'est du n'importe quoi. Toute l'argumentation du préfet repose sur la différence de contexte. L'Italie n'est plus fasciste, la France n'est plus Vichy, donc c'est du passé, donc ça n'a rien à voir. Vous noterez que ça aussi, c'est une tendance actuelle des politiques. J'appelle ça figer le passé. C'est exactement ce qu'avait fait François Fillon face à Elie Domota dans l'émission que j'avais commentée dans une chronique précédente. Ce qu'ils se refusent à voir tous en faisant ça. Certes, ce n'est pas la même chose. Certes, ce sont de nouveaux États, de nouveaux migrants, de nouveaux cadres juridiques. Mais, de une, le passé travaille toujours le présent. C'est ce que j'avais montré pour l'esclavage dans le rapport Elie Domota-François Fillon. Mais c'est le cas ici aussi. Dans une région qui a tellement connu de migration, de violence et de solidarité. Dans une région où ceux qui ont aidé ces migrants ont été considérés comme des justes, il y a des plaques à cette mémoire, le passé imprime le présent et explique les passages à l'action des gens. Et d'autre part, et ça, une autre historienne, Sophie Vanisch, dans une tribune de Libération le 11 janvier, l'a très bien expliqué. Bien sûr, l'histoire ne se répète pas à l'identique. Bien sûr, il n'y a pas identité de situation. Mais il y a des similitudes. Et ces similitudes autorisent l'historien à tirer des comparaisons qui n'ont rien d'absurde. Et elle évoquait, et je la rejoins pleinement, l'éthique de l'historien qui est de prendre la parole quand le savoir sur le passé permet et est crucial pour comprendre le présent. Pour terminer cette chronique et pour revenir à Mama Héroux, elle évoquait aussi sa grand-mère italienne, sa mère allemande, son père breton. Elle évoque ce qui est l'histoire de notre population, une population qui est faite de mélanges, une réalité démographique culturelle qui devrait faire exploser en plein vol toutes les visions erronées de l'existence d'une France de souche menacée par des populations étrangères. Or, c'est bien en rappelant cette histoire de toutes ces migrations et de ces mélanges qu'on peut tenter de réveiller un peu l'humanité. Damien Carême, qui est le maire de Grande-Synthe, qui est une commune près de Calais, qui a œuvré pour offrir aux migrants un séjour digne, humain, raconte comment, pour expliquer à ses concitoyens qu'ils construisaient un camp, dans une ville en plus qui est sinistrée par la délocalisation industrielle, il a mobilisé l'histoire. On l'écoute.
J'ai décidé de faire des courriers à la population pour expliquer la situation. Quand ils étaient 190, je leur ai dit, bah voilà, il y a 190 réfugiés qui sont présents. Là, la nationalité, c'était tous des Syriens à l'époque. Voilà ce qu'ils vivent. On ne peut pas les laisser comme ça. Je leur ai rappelé notre histoire aussi. Cette ville, je vous le disais tout à l'heure, c'est une ville ouvrière. Et quand elle s'est construite, c'est une particularité. Pour venir travailler dans l'usine en 1960, on est allé chercher de la main-d'œuvre en Espagne, en Italie, au Maroc, en Algérie, pour qu'ils viennent, parce qu'on n'avait pas suffisamment de bras chez nous. Et donc on est allé chercher toutes ces populations, les Polonais qui arrivaient des mines qu'on fermait en région Nord-Pas-de-Calais, donc la première génération de Polonais qui est arrivée dans les mines et qui après est venue travailler dans l'industrie. Donc en fait, c'est une ville issue de l'immigration, et donc j'ai aussi fait ce rappel d'histoire à la population.
Donc vous voyez, d'une lettre à d'autres, d'une mère à un maire, l'histoire tisse des fils qu'on ne peut pas couper si facilement.
Merci pour cette chronique, merci pour ce voyage, merci de nous avoir suivis à tous et à la semaine prochaine.